Dieu, Daimonès et Héros, c'est le titre de ton cours et le titre du séminaire auquel tu nous as conviés aujourd'hui. Je modifierai peut-être un tout petit peu le titre en parlant de divinité plutôt que de Dieu, de groupe divin plutôt que de Daimonès, je vais vous en expliquer, et de figures héroïques, évidemment, d'une part pour éviter le masculin trop systématique, mais aussi le recours à cette notion, on l'a vu tout à l'heure, polysémique, pour le moins polysémique, de Daimon. Mais ce qui m'a intéressé, c'est en particulier un paragraphe du descriptif de ton cours et donc de ce séminaire, que je cite ici pour me situer à cet égard. Il s'agira néanmoins de comprendre la portée de telles distinctions en termes de statut d'une part, mais aussi de puissance d'action, à la fois dans la tradition ou dans les traditions narratives qui mettent ces entités en scène, en tant qu'elles sont divines, héroïques ou démoniques, et tu mets ces termes entre guillemets, et puis, autre point de vue, et du point de vue des acteurs des cultes engagés dans des démarches rituelles. Or, en Grèce classique, en Grèce ancienne en général, il est une forme poétique qui s'avère correspondre à ces deux pratiques. D'une part, la mise en scène narrative, des dieux, des groupes divins en ce qui me concerne, des figures héroïques, mais aussi l'action rituelle adressée à l'une ou l'autre de ces figures divines. Et cette forme poétique, vous l'avez deviné, c'est l'hymne, l'hymne au sens restreint du terme qu'il a par exemple chez Platon. Le terme hymnos est en gros, pendant toute la période classique, déjà d'ailleurs dans la poésie homérique, plus ou moins un synonyme de aoïdé, c'est-à-dire le chant, hein, tout simplement. Mais Platon lui donne cette signification plus particulière de prière rituelle chantée, c'est absolument essentiel, qui est adressée à une figure divine au cours de ce que j'appellerais une performance musicale. Je vais y revenir. Comme j'ai tenté de le montrer à l'exemple de plusieurs hymnes homériques, l'hymne est présenté par différentes procédures énonciatives, par différentes procédures de l'ordre de l'affirmation et du déroulé de la parole proférée et chantée dans l'hymne elle-même, dans l'hymne lui-même. Cet hymne est volontiers est explicitement présenté comme une offrande musicale, évidemment, en l'occurrence, à la divinité. Sa récitation chantée, donc sa performance musicale, correspond donc à une pratique rituelle. Et cette ritualité, en particulier de l'hymne, elle est inscrite, par exemple, dans le rythme métrique de l'hymne, c'est toujours une forme poétique et une forme poétique chantée, un rythme métrique qui correspond à un mode chanté sur un accompagnement instrumental et avec une scansion, ou cela implique plutôt une scansion, qui est une scansion évidemment chorégraphique. Or, adresser là aussi, explicitement comme acte de chant, je montrerai un ou deux exemples, par des formes performatives et des formes performatives au sens linguistique du terme, adressé donc comme un acte de chant à une figure divine, l'hymne offre volontiers une partie narrative qui met en scène à la troisième personne, dans le temps du récit, non seulement à l'évidence, la divinité concernée, une divinité, on le verra, qui est souvent accompagnée d'un groupe de figures divines, on en a vu un tout à l'heure avec le groupe des trois heures, mais aussi, évidemment, des héros, des héroïnes avec lesquelles la divinité en question interagit, de manière narrative, évidemment. Quelle est donc, et c'est la question que j'aimerais poser ici, quelle est donc la figure, quel est donc, en effet, le statut, mais surtout, quel est le mode d'action? Et le cas échéant, quelle est l'action attendue des différentes figures divines, des différentes figures héroïques aussi, d'une part protagonistes de l'action narrative qui est mise en scène, en général mise en scène dans un hymne, quelle qu'en soit la forme, et d'autre part, et ici surtout, des figures qui sont actives dans ce que j'appellerais la transaction musicale, qui est aussi une transaction rituelle avec la divinité, cette transaction musicale à laquelle correspond la performance musicale de l'hymne, quelle qu'en soit la forme. C'est ce que j'aimerais indiquer en proposant la lecture d'abord d'un bref hymne homérique, c'est votre texte numéro 1, et puis une forme hymnique de Pindare qui correspond à un péan. Là, le développement est extrêmement long, je ferai juste quelques allusions, mais j'aimerais surtout terminer ou consacrer la deuxième partie de mon exposé à l'analyse d'un hymne de culte, en l'occurrence, c'est votre texte numéro 3, le péan delphique d'Aristonoos, que nous connaissons par une inscription. Tu nous as invités à un séminaire et la forme d'exposé que j'ai choisie ici, c'est tout simplement le commentaire de texte, l'explication de texte, qui constitue d'ailleurs mon exercice, qui constitue encore dans mon enseignement universitaire mon exercice préféré. Pour vous dire donc que je ne vais pas vous offrir ici un exposé continu, mais j'aimerais vous rendre attentif à une série de phénomènes qui vont dans le sens ou qui tentent de répondre à la double question que j'ai posée tout à l'heure. Je commence donc par le texte numéro 1, par cet hymne homérique numéro 6, un bref hymne homérique, qui est donc adressé, pas tout à fait au début, on verra, à Aphrodite. C'est donc un des hymnes qui est consigné dans notre corpus de 33 hymnes homériques, connus par la tradition manuscrite. Il faut bien souligner qu'ils sont rédigés en diction homérique, en diction épique, hexamètre dactylique, etc., et qu'ils ont une longueur variable, ça va de 3 vers jusqu'à 546 pour l'hymne à Apollon. Un point qu'on oublie volontiers, c'est que par Thucydide lui-même, ces hymnes homériques sont désignés en tant que pro-oïmia. Pro-oïmion, ça signifie tout simplement le prélude, et ce sont en fait des proèmes, des préludes, à des récitations de poèmes épiques, des récitations de poèmes épiques telles qu'elles avaient lieu, telles qu'elles étaient insérées, par exemple, sous la forme d'un agone, sous la forme d'un concours, dans les grandes panathénées, dans l'Athènes classique. Et la transition entre le prélude et la récitation du poème homérique ou du poème épique lui-même, elle est souvent exprimée en conclusion à l'hymne homérique lui-même. Alors, les différents points que j'aimerais relever dans la lecture suivie et dans le commentaire que j'aimerais offrir de cet hymne homérique adressé donc à Aphrodite. Comme tous les autres hymnes homériques, il y a une exception, c'est l'hymne 8 à Arès, l'hymne commence non pas par une invocation, donc pas par une adresse à la divinité à la deuxième personne, mais par ce qu'on appelle une évocation, puisque la divinité, vous le voyez, aphroditaine, ici à l'accusatif, apparaît à la troisième personne. Autre point important d'emblée à relever dans ces deux premiers vers, la divinité est évoquée par ce qu'on appelle, mais c'est un terme ancien utilisé pour un concept moderne, le théonyme, et également, vous le voyez, par ce qu'on désigne, mais aussi dans une désignation ambiguë qui reprend un terme grec, mais en lui conférant un sens différent, une série d'épiclèses. Donc attention à ces termes modernes de théonyme d'un côté et d'épiclèse qui sont exactement comme le terme de mythe et le concept de mythe, des concepts modernes mais auxquels on a attribué un signifiant grec, sauf que le signifiant grec ait exactement la même signification que le terme moderne. Quoi qu'il en soit, je préfère ici choisir les désignations qu'on trouve chez Hérodote, dans un passage fameux où il explique comment est advenue la théogonie des Grecs, notamment par l'intermédiaire d'Hésiode et d'Homère. Et il parle simplement des noms des dieux, les onomata, hein, les dénominations des dieux, et puis des eponymiae, ce qu'on pourrait définir simplement par les qualifications des dieux. Pausanias donne des catégories encore un tout petit peu plus complexes. Vinciane a travaillé sur ce sujet, on pourra revenir sur ce problème dans la discussion. Quoi qu'il en soit, il me semble préférable de parler tout simplement des noms ou des dénominations des dieux et puis de leurs qualifications, qu'on peut éventuellement diviser en qualifications poétiques, c'est le cas ici, et puis en qualifications ou en épithètes de culte. Mais ce qu'il faut relever à ce propos, vous voyez le premier vers ici de cet hymne où Aphrodite est dans un premier temps évoquée, c'est que les trois qualifications ici, qui sont utilisées pour définir Aphrodite, qui sont plutôt des qualifications poétiques, sont en asyndète. C'est un phénomène rare en syntaxe grecque. Hein. La syntaxe grecque est plutôt, de manière très générale, connective. Et c'est un phénomène qui est propre à l'invocation, en l'occurrence ici, à l'évocation d'une figure divine. Il s'agit là donc d'une tournure rituelle, et on peut montrer que, avec d'une part la nomination chantée de la divinité, avec sa qualification aussi, en général en asyndète, on essaie de provoquer la présence de la divinité, je dirais pas forcément son épiphanie, mais en tout cas la présence de la divinité, hic et nunc, au moment de la récitation ou de la performance chantée du poème, on essaye à provoquer sa présence en tant que, hein, de là la nécessité des qualifications. Un autre point important, toujours à propos de ces deux premiers vers, c'est la forme asomai. Ici, donc, une forme de ce qu'on appelle le futur. Le futur a ici le sens intentionnel qu'il a d'habitude en grec. Et en l'occurrence, quand il intervient ici dans un poème, on parle de futur performatif. Le poète, Laël, dit « Je vais chanter et j'ai l'intention de chanter et en fait je suis en train de chanter », c'est-à-dire que ces futurs performatifs, ces formes du futur, futur performatif, font du poème en performance un acte de parole, hein, ça s'appelle un « speech act », et en l'occurrence, évidemment, un acte de chant, vous le retrouvez de manière très générale dans la poésie homérique et en particulier dans les hymnes homériques. Un autre phénomène d'ordre linguistique qui marque d'emblée ce deuxième vers, c'est l'usage de ce pronom relatif. Un pronom relatif que l'on trouve de manière récurrente aussi dans les hymnes, pas uniquement dans les hymnes homériques, qu'on appelle le relatif hymnique, qui introduit la seconde partie, en fait, de toute forme hymnique. Vous avez une première partie d'invocation, ici éventuellement évocation, et puis ensuite une partie qui est une partie descriptive ou narrative, à laquelle on a donné la dénomination de épica pars. Et dans les hymnes homériques en particulier, cette partie narrative offre le récit d'un épisode de la vie, de la biographie du dieu concerné. Et du point de vue énonciatif qui m'est cher, en général, dans cette partie descriptive et narrative, ici narrative, on passe, pour reprendre les catégories définies par mise en place par Benveniste, de l'ordre du discours, hein, avec des énoncés à la première personne, le asomai par exemple, au présent, dans le moment même de la récitation du poème, au récit, à la troisième personne, éventuellement autrefois, et souvent dans un espace différent. Et cette partie centrale de l'hymne, elle est essentielle, surtout dans les hymnes homériques, parce qu'elle correspond à l'attribution de ce que Hérodote appelle pour un dieu sa timée. Sa timée, c'est-à-dire à la fois son mode d'action, mais aussi son champ d'action, enfin son attribution en général. Et ici, vous le voyez, il s'agit de l'attribution moins d'une fonction qui apparaît quand même en filigrane, disons, dans cette partie narrative, mais l'attribution ici d'un domaine géographique pour Aphrodite, c'est-à-dire Chypre. Donc vous le voyez, le récit, il correspond à une scène d'habillement d'Aphrodite à Chypre même, voire le vers 2, probablement après sa naissance de l'écume de la mer. Vous avez probablement une allusion au vers 5 à cet épisode de la naissance d'Aphrodite, à ce moment de la naissance d'Aphrodite, avec l'expression « Aphro-eni Malako » dans l'écume, dans la tendre, entre guillemets, écume. Et il est évident, on pourrait faire un commentaire détaillé, mais que les parures de la déesse sont cosmos. Vous voyez le vers 14 qui orne le corps de la déesse, évoque le pouvoir, à l'évidence le pouvoir qui est incarné dans la figure d'Eros, c'est-à-dire donc la puissance du désir érotique. Vinciane a écrit à ce propos de très belles pages. Ce serait naturellement une scène à comparer avec la scène homologue de l'habillement de Pandora, mais ça n'est pas le but ici de l'exposer. Le point... Ah oui, ce que je voulais aussi relever, vous voyez donc que Aphrodite est accueillie à Chypre par l'un de ces groupes de divinités, tels les Muses par exemple, ou les Charites. Ici, nous retrouvons précisément les heures. Et ce qu'il est intéressant de relever, c'est qu'au vers 13, les heures sont associées à la danse chorale. C'est la danse chorale des dieux. Hein, vous voyez ici les dieux aussi mentionnés de manière collective, de même que dans le poème le poème des frères de Sappho, le premier des poèmes commentés par Gabriella tout à l'heure. Et c'est une danse qui est qualifiée de himeroeis, n'est-ce pas, puisque en Grèce, la poésie, et en particulier la poésie chantée, avait cette faculté de susciter un désir ou de susciter un plaisir qui est assimilé au désir et au désir érotique. C'est d'ailleurs le désir que va susciter et que va dominer aussi Aphrodite elle-même. C'est aussi le sens de cette scène d'habillement. Avec, comme vous le voyez, une allusion au père des heures, les heures qui sont ici à la fois filles filles de Zeus et de Thémis. J'en viens à la conclusion du poème. Ce sont donc, à partir du vers 15, ce sont donc les heures qui sont amenées à conduire Aphrodite, qui est désormais parée de tous les atours qui suscitent Eros, qui conduisent Aphrodite sur l'Olympe, parmi les immortels, désignés là aussi de manière collective. Et ce déplacement signifie naturellement, implicitement, une séparation entre les dieux et Aphrodite en particulier, et puis les dieux qui règnent sur l'Olympe. Il est intéressant de relever que par le biais de la vue, qui est le véhicule même du désir érotique en Grèce, en particulier dans la poésie érotique, la déesse ne va pas manquer de susciter le désir précisément de chacun des immortels, avant de susciter celui des mortels. Et puis, par le biais d'ailleurs d'une structure annulaire, on revient à la dimension spatiale, à la situation géographique donnée à la déesse, qui devient kutereiê, d'une qualification ici qui est pratiquement l'équivalent d'une dénomination, de ce que j'appellerais éventuellement un théonyme. C'est de cette manière que Aphrodite est, par exemple, désignée, soit dans l'Iliade, soit aussi dans l'Odyssée. J'aurai une série de passages à vous citer. Et puis, on arrive à la partie conclusive de cet hymne homérique. Donc, suivant la structure, cette structure tripartite identifiée pour les différentes formes hymniques grecques, j'ai donc dit invocation, ensuite la partie narrative, et puis finalement ce qu'on appelle la prière, et c'est ce qui m'importe évidemment ici, une prière qui est introduite, vous le voyez au vers 19, par la forme kairé, qu'on traduit volontiers par « salut ». Non, je pense qu'il faut la traduire de manière, au sens littéral du verbe. Il s'agit bien d'une invitation à se réjouir. Hein. « Kairé », c'est « réjouis-toi ». Et avec cette invitation à se réjouir, débute un contrat de don et de contre-don que l'on passe avec la divinité invoquée, en général dans toute forme hymnique. En effet, dans l'injonction, autre point, qui lui est adressée, la déesse reçoit deux qualifications et deux qualifications poétiques. Vous voyez, le helicoblepharos et le glucumeilikos, au doux sourire, avec une double allusion à son pouvoir de séduction et au pouvoir de séduction qu'elle sait aussi animer auprès des mortels, d'ailleurs hommes et femmes. Et ensuite, à travers d'ailleurs cette double qualification, l'offrande musicale dont la déesse est priée de se réjouir par le Kairé au vers 19, à cette offrande musicale, répond en réciprocité la demande d'accorder la victoire dans un concours, c'est en agonie todé. Là, vous avez un geste de deixis, c'est de deixis spatial. C'est ce concours musical dans lequel ce poème est chanté. Et la demande, donc, porte sur la victoire à accorder au chant qui va suivre ce prélude hymnique, adressé à la divinité. C'est dire donc que cette offrande musicale est présentée dans un rapport de réciprocité avec la divinité. À la divinité, on offre l'hymne, mais en échange, on attend la victoire dans le concours qui est introduit par, ou dans la récitation, disons, qui est introduite par ce prélude, par ce poème hymnique. Je relèverai ici encore, du point de vue énonciatif, un double geste hein, de deixis référentiel, référence évidemment d'une part au jeu poétique, et puis référence justement à ce concours Todé, ici et maintenant, à ce concours-ci. Donc, en conclusion, confirmation de la réciprocité poétique, musicale, dans la performance ritualisée, actuelle, et la divinité sera ensuite, par ce biais-là, présente dans le champ successif, et dans le champ successif qui est présenté aussi de manière performative par cette forme que vous trouvez au dernier vers d'ailleurs de l'hymne, Mnesomai, par référence évidemment à la mémoire, d'une tradition orale, à la mémoire poétique d'une tradition orale. Ceci est pour dire donc que l'hymne, dans sa performance musicale, établit une relation forte, une relation rituelle aussi, entre les deux protagonistes de cette performance musicale. Et cette réciprocité, elle est exprimée du point de vue linguistique par la conjonction, en quelque sorte, oui, c'est une conjonction, de « ego kai seyo », vous le voyez là, au dernier vers de l'hymne homérique. D'une part, du côté des mortels, le jeu poétique, et puis, de l'autre côté, la déesse immortalisée dans le parcours de Chypre sur l'Olympe avec l'aide des hommes. Donc ici, définition de la figure de la divinité, définition de sa timée avec l'aide des heures, mais définition aussi d'une relation avec les mortels, ici de la relation entre Laède et son public. À la page D, vous trouvez cet hymne qu'on appelle l'hymne d'Aristonos, puisqu'il a été consacré à Delphes au IVe siècle, et vous voyez que dans l'épigraphe de consécration, il est désigné comme hymnos, alors que son refrain récurrent, yé payan, deux formes qu'on trouve dans d'autres formes de péon, le désigne naturellement de manière plus spécifique comme un péon. Ce que j'aimerais relever, sa structure, évidemment, vous voyez donc qu'il est formé de six paires de quatrains qui sont composés chacun de Troie gliconien. Bon, c'est le terme technique. Enfin, quoi qu'il en soit, il s'agit ici non plus d'examen dactylique et non plus de diction épique, mais de poésie dite lyrique, c'est-à-dire de poésie mélique. Et en ce qui concerne le rythme, ce qu'on appelle le rythme éolien, les poèmes de Sappho, les poèmes d'Alcée, sont, mais aussi des parties chorales de la tragédie, sont rédigées dans ce rythme. Chaque strophe, je l'ai mentionné, donc s'achève par l'appel avec la variation fréquente entre « et » ou « o », « yé » « payan ». L'invocation, d'abord, pour commencer, l'invocation, vous voyez, elle intervient uniquement, je reviendrai sur ce point, au vers 5. Dans une adresse directe, tout à fait régulière, à Apollon. Et ce qui est intéressant quand même de relever, c'est que s'il faut attendre le vers 5 pour avoir l'invocation par le nom d'Apollon lui-même, c'est que cette invocation est probablement induite par le premier refrain, « Yé, yé, payan », qui vaut en quelque sorte comme qualification du dieu, même si Payan correspond à ce qu'on appelle un théonyme. Il arrive qu'Apollon soit désigné simplement comme Payan. Et c'est évidemment ce refrain et sa réitération qui confère à la nomination du dieu adressé dans ce poème, une tournure, et une tournure évidemment fortement rituel. Apollon, vous le voyez dans les premiers vers, deuxième point que je voulais relever, est invoqué sans qualification particulière, mais s'y substituent dans les premiers vers des indications de l'ordre de la description. C'est-à-dire que du point de vue formel, on a en quelque sorte une combinaison de ces deux premières strophes, de ces huit premiers vers, entre ce que nous distinguons comme partie de l'invocation et puis l'épicaparse, ensuite la partie descriptive ou descriptivo-narrative. Une autre chose qui m'intéresse, c'est que dans ces premiers vers, le dieu est d'abord désigné par son lieu de résidence, le rocher oraculaire de Delphes, cela naturellement auprès de la Pythie. Ensuite, vous avez, c'est aussi fréquent d'ailleurs dans les hymnes homériques, une indication généalogique, hein, comme le fils, également, exactement, l'agalma de Leto. Avec l'évocation aussi de la volonté de Zeus, qui intervient ici dans la mesure où il règne sur tous les dieux, mais de manière indirecte, par la désignation du rocher auprès duquel Apollon est appelé à apparaître, vous avez quand même une indication sur la fonction d'Apollon, de cet Apollon Péon invoqué ici, c'est évidemment la fonction oraculaire. Autre point aussi à relever, dans la seconde paire de quatrains, qui d'ailleurs, du point de vue des catégories ou du point de vue des modes énonciatifs distingués par Benveniste, se déroule entre le mode du récit et le mode du discours, et ceci dans la mesure où c'est toujours Apollon invoqué en tu qui est le sujet des actions qui sont décrites ici, nous avons une définition. Alors là, nous avons une définition, et une définition explicite de la fonction du dieu par l'intermédiaire de la pratique oraculaire, d'abord le laurier naturellement, et puis ensuite, voyez au vers 15, la parole oraculaire elle-même, proférée auprès du trépied. Mais ce que je trouve très intéressant ici, on dirait presque qu'il s'agit d'un poème de Pindare, c'est que à la parole sont associés, voyez au vers 16, les sons ou le chant de la lyre, le chant de la lyre euphtongos, le chant de la lyre au beau son. Comme s'il y avait une espèce de, je ne veux pas dire de recouvrement, mais d'interférence entre la parole oraculaire et puis la parole chantée, qui est la parole de l'hymne ou la parole du péon. Pindare, notamment dans le péon 6, joue naturellement de manière encore beaucoup plus explicite et surtout beaucoup plus développée sur ce type d'interférence. Le devin lui-même étant évidemment souvent comparé au poète. Ensuite, on passe par l'intermédiaire d'ailleurs, non pas d'un relatif hymnique, mais par un adverbe de lieu, enta, c'est pas du tout un hasard, c'est au vers 9, au récit, vous le voyez, au récit à proprement parler, c'est le récit de l'occupation du site de Delphes par Apollon. Et par Apollon, je résume simplement, après l'acte de purification à Tempe par la volonté de Zeus, donc intervient Zeus ici, avec l'aide d'Athéna, et puis c'est ensuite le dieu lui-même qui persuade Gaïa, mais aussi Thémis, de lui accorder sa résidence, cette résidence à Delphes, avec laquelle le poème a commencé. Il y a ensuite une seconde partie narrative, au vers 25, introduite par Hoten, là aussi un adverbe de lieu. Il s'agit de l'installation d'Athéna sur le site de Delphes par Apollon lui-même, et vous le voyez, en reconnaissance de bienfaits anciens, vous voyez ici que cette réciprocité dans la charis, caractérise aussi la relation entre deux divinités, ici Athéna, enfin Apollon et Athéna en particulier. Et puis vous auriez encore vous avez encore une troisième partie narrative que je mentionne ici. Elle est importante du point de vue de notre pensée du polythéisme. Hein, ça correspond au cinquième quatrain où vous avez l'énumération des dons que un certain nombre d'immortels ont fait à Apollon. Donc vous voyez, il y a Poséidon pour le site. Les nymphes, un groupe de nouveau, ici, on avait les heures tout à l'heure, ici les nymphes qui interviennent pour la grotte de Corycis, Dionysos lui-même, pour les courses aux torches, et puis naturellement, finalement, Artémis pour cette contrée montagneuse qui est ouverte à la chasse. Donc vous voyez ici la partie narrative qui dessine la constellation, la configuration polythéiste à laquelle d'ailleurs sont associés non seulement les dieux de l'Olympe que sont Poséidon, Dionysos et Artémis, Zeus était intervenu dans un premier temps, mais aussi un groupe de divinités, ici en particulier les nymphes, définissant ici d'une certaine manière ce qu'on pourrait appeler le panthéon de Delphes. Je vous rappelle que chaque cité, chaque sanctuaire, pratiquement, chaque cité en Grèce a son panthéon particulier. Ce qui frappe dans ce récit, c'est un petit peu ennuyeux pour ma propre démonstration, c'est que n'intervient pas de figure héroïque. Et puis, encore, avant d'arriver à une ou deux conclusions... Oui, alors il faut quand même encore mentionner le moment de la prière qui conclut, comme c'est attendu, l'hymne à partir du vers 41. Vous voyez, prière donc adressée à Apollon, et un Apollon qui désormais, regardez, est nommé uniquement par le refrain lui-même, est nommé uniquement dans le refrain lui-même par le « O Ye Payan ». Il est devenu le refrain, il est devenu l'appel à sa présence ici et maintenant. Avec, vous le voyez, une demande de réciprocité fondée sur la charis, exactement comme dans les passages conclusifs des hymnes homériques. En échange donc de la voix, de la joie éprouvée pour l'hymne offert, au vers 45, le Dieu est prié d'accorder bonheur, la prospérité, le salut aussi, et cela dans une forte affirmation du « je » poétique. De nouveau, la relation entre la divinité et celui qui chante le poème, un « je » poétique qui apparaît deux fois d'ailleurs dans la forme plurielle du « nous », ici évidemment un appel qui est un appel choral et d'ordre rituel. Des conclusions très brèves. Comment donc apparaissent les entités divines, mais aussi, ici dans une moindre mesure, les entités héroïques dans des textes poétiques dont la performance musicale constitue une pratique rituelle? Avec quel statut, pour reprendre tes termes, avec quelle puissance d'action? D'une part, je dirais que conformément à la manière dont Hérodote envisage l'origine, l'histoire des dieux, on parle simplement de théoi grec, on voit apparaître en effet des noms, onomata, Aphrodite, Apollon, pour ce qui nous concerne, et puis des eponymiae, c'est-à-dire donc des qualifications qu'on peut, je pense, distinguer entre, ou comment dire, diviser, entre, ou partager entre qualifications poétiques du type glucu meilikos, et puis naturellement les appellations cultuelles, rituelles, comme païan, qui se substitue même à l'appellation d'Apollon. Et puis il y a, avec un statut un peu intermédiaire, ces qualifications géographiques, comme kutereiae pour Aphrodite. Je dirais que la profération poétique, la profération musicale, hymnique du nom, mais aussi des qualifications de la divinité, tendent à susciter sa présence au moment même du chant du poème. Autre conclusion, la partie descriptivo-narrative, la partie centrale du chant hymnique, tend à définir non seulement ce que Hérodote lui-même appelle l'eidos, c'est-à-dire la figure, vous avez très bien vu dans la scène d'habillement d'Aphrodite, du dieu concerné, ou de la divinité concernée, non seulement sa timée, en quelque sorte son champ d'action, non seulement, c'est aussi un terme employé par Hérodote, sa techné, c'est peut-être là vraiment son mode d'action, sa manière d'agir, mais elle tend aussi à, et ça c'est souvent oublié, à l'attacher à un lieu, à un espace particulier, qui est évidemment, qui correspond à un espace d'ordre cultuel. C'est en tout cas l'espace dans lequel se déroule le rituel chanté auquel correspond l'hymne. Et c'est l'espace qui accueille la séquence d'offrandes rituelles, parmi lesquelles le chant hymnique lui-même en performance. La puissance d'action attribuée à la divinité, quatrième conclusion, est inscrite dans le jeu rituel de Do ou Des, qui, par la réjouissance musicale qui est attribuée à la divinité, conclut le poème hymnique, on l'a vu. Donc, la puissance d'action est l'effet même, la puissance d'action, le développement de la puissance d'action de la divinité est l'effet même du rituel chanté. Cinquième point, à la définition et à la réalisation de l'action de la divinité peuvent contribuer des groupes divins, tels les heures, sur le statut desquels il faudrait encore s'interroger. Rudart a travaillé notamment là-dessus, mais je pense qu'on pourrait prolonger la réflexion. Dans les exemples que j'aurais donnés ici, notamment avec le péan de Pindare, les figures héroïques semblent être cantonnées dans la partie narrative, mais nous avons des poèmes et des poèmes hymniques dans lesquels, par exemple, les Dioscures interviennent du point de vue de l'invocation. Hélène est, par exemple, évoqué à la deuxième personne dans un poème d'Alcée, etc. Il y aurait toute une série de contre-exemples. Et pour conclure, j'aimerais vous rappeler la fameuse affirmation de Jean-Pierre Vermenant, qui a été la discussion d'ailleurs, qui a été l'objet d'un colloque, enfin de plusieurs colloques et d'un volume collectif qui s'appelle « Puissance divine à l'épreuve du comparatisme ». Vernon qui affirmait à la fin des années, non, début des années 60, les dieux helléniques sont des puissances, non des personnes. La pensée religieuse répond aux problèmes d'organisation et de classification des puissances. Elle distingue divers types de pouvoirs surnaturels avec leur dynamique propre, leur mode d'action, leur domaine, leurs limites. Elle en envisage le jeu complexe, hiérarchie, équilibre, opposition, au pluriel, complémentarité. Ce travail de classification, en fait, est celui de notre pensée d'historien de la religion grecque. Les Grecs et les Grecs, par la parole poétique ritualisée, par la performance musicale, créent leur divinité. Et créent leur divinité à chaque occasion cultuelle en un lieu précis. Par la parole chantée, ils leur confèrent la puissance, le pouvoir d'action souhaité, mais ils s'adressent aussi à elles, en fait, comme des personnes. Merci.